Les CM2 à la une,
ça compte pas pour des prunes.
Les CM2 à la une,
ça compte pas pour des prunes.
Dans un instant, vous allez écouter la seconde partie du témoignage de Annie Beck, qui a été cachée en tant qu'enfant juive au couvent de Capdenac pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est intervenue à l'initiative de Sandrine Dubos, institutrice de la classe de CM2 de l'école de Riom, le lundi 22 mai 2017. Cette émission a été réalisée dans le cadre d'un projet radio inter-école porté par la communauté de communes Cœur de Garonne, en partenariat avec les associations Les Chemins Buissonniers et Médias Communs. De l'importance de témoigner aujourd'hui pour que cette mémoire reste vivante.
Et cette religieuse, elle savait qu'elle risquait gros en nous gardant, mais elle l'a fait quand même. Elle nous a gardés et les autres religieuses ne savaient pas. Alors, pour que personne ne sache, pour pas qu'on puisse dehors nous dénoncer, elle a dit, on va aller à la messe. Il faut aller à la messe avec tout. C'était une école, donc il y avait des enfants du village avec nous. Mais moi, je n'étais jamais allée à la messe, par exemple. Je parle de moi comme de tous mes petits camarades qui étaient là. Hein. Alors, Madame Bergon, donc Madame Bergon, c'est la directrice, c'est sœur Denise, mais comme elle était professeure, on l'appelait Bergon. Elle m'a d'ailleurs donné des cours de philo, Madame Bergon. Elle nous dit, écoutez, ce que vous allez faire, quand vous verrez les gens se lever, vous vous lèverez. Quand ils s'agenouilleront, vous vous agenouillerez. Quand ils s'assoiront, vous vous asseoirez. Mais le temps de les voir, vous avez une ou deux secondes. Mm-hmm. Donc, quand ils se levaient, nous, quand on se levait, déjà, ils se rasseyaient ou ils s'agenouillaient. Ça a été à ce tel point que des gens ont fait la remarque à Madame Bergon. Et tenez-vous bien, savez-vous ce qu'elle a répondu? Elle a dit, ah oui, mais c'est pas étonnant, vous savez, ces gosses viennent de l'Est, viennent de Nancy. Et vous savez, du côté d'Nancy, il y avait beaucoup d'aciéries, c'est-à-dire des usines. Donc, il y avait beaucoup de familles ouvrières. Alors, on disait, vous savez, ces gosses viennent de familles ouvrières qui ne sont pas tellement pratiquants, alors ils ne savent pas. Bon, mais ça pouvait marcher une fois ou deux, mais comme elle était très intelligente et qu'il y avait un clavecin au premier étage de l'église, on appelle ça comme...
Des orgues.
Hein?
Un orgue.
Oui. Elle a dit, vous allez monter là-haut et vous chanterez. Donc on a appris, je peux vous dire, tous les cantiques, je pouvais vous les chanter par cœur. Par cœur, à ce tel point, pour vous amuser un peu, un jour, on revenait avec mes enfants, mon mari, mes enfants, d'être allés manger chez des amis, c'était pendant la période de Noël, et on faisait marcher la radio dans la voiture, et il y avait le Mimi Chrétien. Et je me suis mise à chanter avec. Et mon fils me dit, « Eh ben, tu connais ça, toi ?» Mais avec un air. Elle dit, « Oui, mon chéri, je connais ça. » Alors, donc, elle nous a fait monter. Et il n'y avait plus d'histoire, donc. Les gens ne nous voyaient plus nous asseoir, nous relever, puisqu'on était ou assises ou levées quand on chantait, hein, là-haut. Tout se passait comme ça, très bien, sauf qu'on ne pouvait pas, sortir, puisqu'on avait tous peur. Et il y avait un maquis, à quelques kilomètres donc du couvent, et un jeune homme, et je me rappelle, j'ai vu ce jeune homme, puisqu'il a sonné à la porte d'entrée, et c'est moi, il y avait la sœur portière qui était dans le jardin, et je me souviens que je lui ai dit, ben je vais ouvrir ma sœur, je vais ouvrir. J'ai été ouvrir, je me suis trouvée devant ce jeune homme, déjà c'était presque, à part le curé, c'était le premier homme que je voyais, depuis un an que j'étais dans le couvent, enfermé. Alors déjà pour vous dire, je le trouvais très beau. Très grand, très beau. Alors il me dit, mademoiselle, il faut absolument que je voie votre supérieur. Alors je le fais rentrer, puis vite, vite, j'appelle Madame Bergon. Et il nous dit, écoutez, il y a eu une lettre qui est arrivée à la commandant Tour, nous le savons. La commandant Tour, c'est l'état-major allemand. Et cette lettre dit que dans le couvent, il y a des enfants juifs cachés. Donc attendez-vous à une descente. Vous pensez l'affolement du couvent. Même Madame Bergon, la directrice, qui me dit, mon Dieu, mes sœurs, elle appelait mes sœurs, puisqu'il n'y avait que trois sœurs qui étaient au courant. Mais les autres sœurs qui ignorent tout, elles vont se retrouver déportées. Et alors que faire? Donc on avait décidé, les petits, parce qu'il y avait des enfants à partir de 3 ans hein, au couvent, dont les parents avaient été obligés soit de se cacher, soit qui avaient été déportés. Et les enfants s'étaient trouvés seuls, et des voisins étaient arrivés à les faire amener donc, chez Mademoiselle Thèbes, je vous dis, qui était le bureau de bienfaisance de l'archevêché. Voilà. Donc les petits, on les a couchés tout habillés. On leur avait dit que c'était un jeu. Et chaque grande dormait à côté d'un enfant petit. Que si jamais ils entendaient frapper, le temps qu'on allait ouvrir et tout, il fallait prendre les enfants et vite, parce que le couvent était, il y avait un bois autour du couvent. Maintenant, ce bois n'existe plus, ce sont des maisons. Et il fallait courir dans le bois. Et ce jeune homme avait dit oui. Et on sait également que vous cachez des évadés. Bon, les évadés, c'était moi, hein, une évadée déjà. Et il y en avait deux autres avec moi. Alors, que faire? Et je peux vous dire que c'est le cauchemar de mon existence. Sous la chapelle, il y avait une chapelle, hein, donc, comme dans tout couvent, il y a une chapelle. Et il y avait un côté pour les religieuses, l'autre côté, c'était pour le public. Et c'est là où nous, on était quand on se levait trop tard ou on s'asseyait trop tard. Et donc, du côté des sœurs, il y avait des bancs pour les sœurs. Mais sous ces bancs, quand on soulevait les bancs, il y avait une trappe qui donnait dans des égouts. Qu'est-ce qu'on fait? On décide que sous cette trappe, l'aumônier du couvent a soulevé la trappe et à toutes les trois qui étions des évadés, on est descendu dans cette trappe. Au départ, cette trappe, on est descendu dans cette espèce de souterrain, d'égout, je ne sais pas. Alors, on ne pouvait ni être debout, parce que ça faisait ça. On ne pouvait même pas être couché, parce que là aussi, c'était comme ça. Il y avait juste un petit au milieu, comme un petit ruisseau qui passait là au milieu. Donc, on ne pouvait être que assis et recroquevillé. Eh bien, j'ai passé là 5 nuits. Les Allemands allaient et venaient tout autour du couvent. On s'attendait qu'ils y rentrent à un moment ou à un autre. Et nous, on était là. Et moi, à un moment donné, bon, j'ai paniqué, quoi. Parce que je me suis dit, imaginez qu'ils arrêtent les religieuses, là. Personne ne saura qu'on est sous la trappe, là. Puisqu'on avait replacé les bancs. Et les religieuses qui assistaient à la messe, elles ne savaient pas qu'il y avait 3 personnes en bas, là, dans la trappe. Et tous les matins, si vous voulez, l'aumônier ouvrait la trappe et nous descendait de quoi manger, de quoi boire. Alors le matin, j'ai dit à l'aumônier, je lui ai dit, écoutez, moi je ne reste pas. Imaginez qu'il vous arrête, imaginons le pire. Il vaut mieux imaginer le pire et qu'il n'y ait rien finalement. Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce qu'on devient toutes les trois? On se mange entre nous? On devient folle? Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi je remonte, tant pis, je préfère être arrêtée, je remonte. On est remonté parce qu'elles étaient toutes d'accord avec moi. Vous vous rendez compte, on serait morte comment là-dedans? Personne n'aurait su qu'on était là. Puisqu'il n'y avait que la directrice et l'aumônier qui savaient qu'on était là en dessous. Alors on est remonté. Et puis bon, ben, tous les soirs, les enfants se couchaient. Tant qu'on a entendu. Et puis les Allemands, finalement, on a appris qu'ils cherchaient un de leurs déserteurs. Et que pour le moment, ils avaient autre chose à faire, à retrouver cet homme, qu'à rentrer au couvent. Mais tout se passait autour du couvent. C'est pour ça qu'on les entendait, hurler. Toujours ça hurlait. Et c'est comme ça que je suis remontée. Et puis bon, la fin de la guerre est arrivée, heureusement pour nous. Mes parents ne sont pas revenus. Et puis entre-temps, ma jeune sœur est venue nous rejoindre au couvent. Alors elle aussi, c'est toute une histoire. Elle a été cachée par une copine de son école. Elle a été cachée chez les parents de cette copine. Et on l'a fait traverser la zone libre par quelqu'un. Elle est arrivée et elle m'a rejoint au couvent. Mais enfin, elle ne comptait pas comme évadée. Ils n'avaient pas son dossier quand même. Bon, alors la fin de la guerre est arrivée. On s'est retrouvées toutes seules. Eh bien, je vous assure que ce n'est pas facile de se retrouver toute seule. Mes parents, j'espérais tous les jours qu'ils allaient revenir. ils ne sont pas revenus. Donc, entre-temps, quand les Allemands ont envahi Toulouse, ma tante est allée se réfugier en Savoie, parce qu'en Savoie, c'était les Italiens qui occupaient la Savoie. Mais les Italiens n'ont jamais arrêté qui que ce soit. Et d'ailleurs, quand ils sont partis, les Italiens, pour être remplacés par les Allemands, ils ont dit, et c'est vrai, je vous donne la parole, il y a un officier qui a dit à ma tante, maintenant, allez vous cacher, parce qu'avec les Allemands, ça ne sera pas pareil. Et effectivement, elles sont parties, elles ont été reçues cachées par des gens. Alors, ce que je voudrais vous dire, vous savez ce qu'on appelle les justes?
Oui.
Oui. Ah ben oui, voilà, votre professeur vous l'a expliqué. Et donc, ma tante a été cachée chez des fermiers en Savoie qui sont des justes. Alors, il faut penser à ces gens, à ces justes. Parce que vous savez, c'était plus facile de ne rien dire, de ne rien faire ou de collaborer que de risquer sa vie pour sauver d'autres vies. Alors, ces gens-là, vous voyez, il ne faut jamais les oublier. Jamais, jamais. Parce que réellement, dites-vous, par exemple, vos grands-parents, ils ont vécu la guerre, vos grands-parents. Parlez-leur des justes. Vous savez, pour sauver des gens à qui on vous répète à longueur de journée, les juifs, ils sont pas comme vous. Ils sont ci, ils sont ça, ils sont pas comme vous. Qui voulait risquer sa vie? Eh bien, il y en a qui ont risqué leur vie pour les sauver. Moi, s'il n'y avait pas eu ces deux religieuses, ou surtout cette religieuse, la directrice, Madame Bergon, qui était aidée par Madame Roch, s'il n'y avait pas eu ces deux dames, qu'est-ce qui se serait passé? 80 enfants n'auraient pas su où aller. Et n'oubliez pas que c'est Monseigneur Saliège qui a demandé à cette religieuse de garder les enfants juifs. Il ne faut pas oublier non plus que chaque couvent dépend d'un diocèse, d'un archevêché. Et le couvent de Massy dépendait de Rodez. Rodez où il y avait le triste Monseigneur Chaillol, qui collaborait à fond avec l'Allemagne. Alors elle avait dit à Monseigneur Saliège, elle lui a dit, oui, mais Monseigneur, moi je veux bien garder les enfants, mais je dépends de Monseigneur Chaillol, je vais être obligée de mentir. Et Saliège lui a répondu, mentez, mentez ma fille, tant qu'il faudra sauver de vie. Je vous donne l'absolution d'avance. Eh bien, des évêques comme ça, il y en a eu 5 dans toute la France. Celui de Montauban, Monseigneur Théas, a été très très bien aussi. Parce que pour une religieuse, mentir, vous vous rendez compte, hein? Des fois, moi, j'étais très libre avec Madame Bergon. Elle m'aimait beaucoup et je l'aimais beaucoup. Et souvent, je lui disais, parce qu'elle me disait, « Oh, demain, je ne suis pas là, je vais à confesse. » Je lui disais, « Mais Madame Bergon, qu'est-ce que vous avez à confesser? Vous êtes toute la journée avec vos élèves, vous ne sortez jamais nulle part, mais qu'est-ce que vous avez à confesser ?» Alors, elle riait. Donc, nous avons quitté le couvent, et certaines ont retrouvé leur famille, d'autres comme moi, pas. Heureusement que ma tante est revenue sur Toulouse. Alors, bon, je savais qu'il fallait que quand même que j'aille gagner ma vie, parce que je ne pouvais pas, et puis il y avait ma jeune sœur aussi qui est venue avec moi. On ne pouvait pas rester comme ça, donc vite, je m'étais inscrite. Alors j'avais quand même fait la seconde et la première au couvent, mais avec les élèves du village. Je m'étais inscrite quand même, j'ai dit il faut que je travaille. Alors je m'étais inscrite à un cours de secrétariat. Alors je me souviens être allée me présenter à ce cours, et je lui ai dit écoutez, je voudrais passer un CAP de secrétaire. Et la directrice me dit, ah, mais madame, pour un CAP, il faut 3 ans. Et je lui dis, madame, je sais qu'il faut 3 ans, moi, je vais le faire en 6 mois, parce que j'ai besoin de gagner ma vie. Eh bien, je l'ai passé en 6 mois, puis avec de l'anglais en plus. Ben, j'avais fait de l'anglais quand même un peu au couvent déjà. Bon, alors voilà comment ça s'est passé. Puis ensuite, bon, ben, j'ai fait ma vie, hein, j'ai rencontré mon mari, j'ai eu des enfants, des petits-enfants, et maintenant j'ai 5 arrière-petits-enfants. Voilà, alors, ce que je voulais donc vous dire, une chose. Vous, vous êtes, c'est vrai, l'avenir du pays. Alors, il y a une chose que je vous demande. Ne soyez pas neutre quand on vous parle de quelque chose. Ayez une réponse. Oui ou non. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Mais ne soyez pas neutre. Et quand vous savez que quelque chose est mal, ne dites pas, oh, ça m'est égal après tout. Bon. Non, prenez position. Et ça, je vous assure que je vous le demande comme une prière. Sachez dire oui ou non. Et souvent, je vous dis, dans la vie, c'est plus difficile de dire non que oui. Alors, c'est vrai que vous allez peut-être dire aussi que ces choses que je vous ai racontées, c'est un peu triste, peut-être. Mais ça ne fait rien. Ne l'oubliez pas quand même ce que je vous ai dit. Rappelez-vous qu'il y a eu des gens qui ont souffert, qui ont été tués, parce que, tout simplement, parce qu'ils n'allaient pas à l'église, ou ils n'allaient pas au temple protestant. Vous savez, le temps, regardez, je ne sais pas comment vous dire, aucun crime ne peut être effacé. C'est pourquoi, vous, par exemple, demain, vous serez des citoyens responsables. Qui sait peut-être qu'un parmi vous sera président de la République, hein? Ah ben oui, c'est ouvert à tout le monde. Alors, mais tout dépend, je vous assure, tout votre avenir dépend d'aujourd'hui, de maintenant, de vos études, de l'école. Et sachez, toujours, toujours prendre position. Et que pour connaître l'avenir aussi, pour que ce crime ne se renouvelle pas, ne l'oubliez pas. Et puis aussi, voyez-vous, pourquoi j'accepte de venir vous parler comme ça, et je vais dans beaucoup d'écoles. C'est parce que j'estime que les gens qui sont morts, vous savez, il n'y a pas de sépulture. Alors si vous voulez leur seule sépulture, c'est se rappeler d'eux, c'est parler d'eux. Et puis, si vous savez ce qui s'est passé dans le passé, vous ne laisserez plus faire l'avenir. Vous saurez, tandis que si on ne connaît pas son passé, n'importe quoi peut arriver. Bon, je crois que je vous ai tout dit. En conclusion, je t'ai marqué une petite conclusion. Mais il ne faut pas oublier non plus que tous ces camps d'extermination où on a tué des enfants, en France, il y a eu 11 000 enfants qui ont été déportés et sont morts. C'est beaucoup, 11 000. Vous êtes d'accord avec moi?
Oui.
11 000 enfants. Alors, n'oubliez pas que ces camps n'étaient pas placés quelque part au fin fond de l'Afrique ou je ne sais pas, au fin fond du Sahara, mais c'était en Europe. Et en France, près de Toulouse, il y a eu des camps de ce qu'on appelait, là où moi j'étais, camps de triage. C'est-à-dire qu'on vous arrêtait, on vous mettait dans ces camps et ensuite, les camions d'Allemands arrivaient pour vous amener à Auschwitz. Alors, c'est pourquoi que je voudrais donc que vous vous rappeliez de ce que je vous ai dit. Oh, non, il ne faut pas en rêver la nuit, hein. Vous savez, moi aussi, je me suis mariée, j'ai fait ma vie, mes enfants ont fait des grandes études, et je leur ai raconté quand même, parce que j'estimais qu'ils devaient savoir. Et puis, parfois, peut-être, ils ont été un peu insultés à l'école, parce qu'ils n'étaient pas toujours comme les autres. Ou... Bon. Vous voyez, la vie est là, hein, quand même. Mais, comme je vous dis, vous ne restez jamais neutre. Oui, tenez, là j'avais marqué quelques mots, là, où j'avais mis « Je finirai par une courte phrase dite par un grand philosophe, Emmanuel Lévinas, un grand philosophe français. C'est aux hommes de bâtir leur avenir. Et cet avenir, il sera ce que vous, par votre travail, votre courage et votre honnêteté, vous en ferez. » Voilà, j'en ai terminé, mes enfants. Merci.
Vous êtes d'accord pour grappiller 5 minutes de récréation?
Oui. Alors, je sais, qui sait, je me suis peut-être dit que vous alliez prendre de suite votre destin et dire oh non, on veut travailler.
C'est jamais.
Je me suis dit,
Madame Bell va vous montrer quelques images.
Alors, d'abord une photo à laquelle je tiens beaucoup, que je montre partout où je vais. Voilà ma petite sœur qui est morte à Auschwitz. Nous étions une grande famille, grand-père, grand-mère, oncle, tante, cousin. Je peux dire que j'ai été la seule survivante. Voilà, je tenais à vous montrer ma petite sœur. Ça, c'était le livre où il y a tous les mémorials des enfants de France qui ont été déportés. Dans ce livre, vous voyez, il n'y a que des enfants. Il y a des enfants qui avaient votre âge. Il y a des enfants qui étaient des bébés. Vous voyez, voilà un bébé, d'ailleurs. Voilà, Madame Berbon, qui, seule contre tous, a sauvé 80 enfants. Et c'était une femme extraordinaire. Bon, ils sont assez grands, je peux leur expliquer, là, pour la prière qu'elle nous faisait, qu'elle nous a dit. Bon, nous sommes plusieurs à Toulouse à avoir été cachés dans ce couvent et nous être retrouvés, donc, après la guerre à Toulouse. Et chaque année, au mois de mai, nous montions au couvent et il y a une très belle auberge là-bas. Et nous invitions Madame Berbon et Madame Roch, donc les deux sœurs qui étaient au courant de ce qui se passait. On les invitait, on passait la journée avec elles. Et un jour, Madame Berbon, donc, elle a été très malade. Une grande injustice. Elle a fini sa vie très, très malade. Elle a fait promettre à un de mes amis, qui est médecin à Toulouse, d'ailleurs, vous voyez, qui était caché au couvent, elle lui a dit, écoute, Albert, quand je mourrai, je veux que sur ma tombe, vous récitiez la prière juive, la prière des morts. On appelle ça le Kaddish. Comme vous, la prière des morts, c'est la prière des morts qu'on récite, mais en hébreu. Hein? Vous la récitez en latin, les curés la récitent en latin, chez nous, notre curé à nous la récite en hébreu. Madame Berbon, je lui dis, vous voulez qu'on vous récite le Kaddish, mais vous savez que c'est en hébreu. Et vous savez, cette femme d'une intelligence extraordinaire, elle me répond, mais dites-moi, ami, Jésus, il priait comment? Il ne priait pas en latin, il priait en hébreu. Eh bien, pour qu'une religieuse vous sorte ça, chapeau. Et toutes les décorations qu'il a reçues, elle les a méritées. Mais il y a une chose quand même, donc, que je n'ai pas bien faite et que je regrette. Vous savez, j'avais 18, 19 ans à la fin de la guerre. Je sors de ce couvent. Hein? Et donc, j'avais encore, parce que j'avais porté l'étoile jaune. Donc, tout ce que j'avais là, vous ne croyez pas que je l'ai brûlé? Parce que j'ai dit, je ne veux plus en entendre parler. Je veux oublier. Mais ce n'est pas vrai. D'abord, vous n'oubliez pas. Bon, et puis vous refaites votre vie. Alors, vous n'êtes pas toujours là en train de penser à ça. Et puis, c'est qu'avec l'âge que vous comprenez, que vous devez. Parce que pendant longtemps, vous savez qu'on n'en a pas parlé. On voulait pas, personne ne voulait en entendre même parler. Même nous qui voulions en parler, on ne voulait pas nous entendre. Et puis, il est arrivé un moment... disons en 70 peut-être, c'est quand Chirac a fait son discours où il disait que la France était déshonorée ce jour-là. Et c'est à partir de là que les gens ont voulu savoir, les jeunes ont voulu savoir.
L'émission que vous venez d'écouter a été réalisée par Alexandre Ajos dans le cadre d'un atelier radio porté par la communauté de communes Cœur de Garonne en partenariat avec les associations Médias Communs et les Chemins Buissonniers. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale 3.0. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre. Retrouvez toutes les émissions produites par Médias Communs sur la web radio du Libre ondescourtes.fr.
Les CM2 à la une, ça compte pas pour des prunes.
Les CM2 à la une,
ça compte pas pour des prunes.